Salut, c'est Sandrine Elia du podcast Femmes en affaires, le podcast qui donne la parole à des leaders féminines inspirantes. On est vraiment contente d'être de retour aujourd'hui après quelques mois d'absence. On avait pris une pause des podcasts et des enregistrements parce qu'on était en train de finir de rédiger nos mémoires.
Ça a été une grande étape dans notre vie, donc on pensait vous faire un petit épisode hors série sur notre expérience à la maîtrise, discuter un peu de ce qu'on a aimé, ce qu'on a trouvé plus difficile, et aussi de parler de nos projets futurs, que ce soit pour le podcast ou dans nos vies personnelles.
Le mois dernier, c'était le mois national de l'histoire autochtone, alors on avait envie d'aborder cette thématique-là sur notre podcast. En plus, on n'avait pas encore eu la chance d'interviewer une femme autochtone. On a donc invité Mme Odile Joannette pour discuter de son parcours et de ses engagements envers la cause autochtone. Mme Joannette a œuvré depuis plus de 20 ans à la défense et la promotion des droits des peuples autochtones, puis elle a occupé vraiment une variété de postes au cours de sa carrière. On va donc survoler ses expériences professionnelles pour que vous puissiez mieux apprécier notre discussion par la suite. Donc pour commencer, Odile Joannette, c'est une Inoubécoise parce que son père est membre de la Première Nation de Pessamit sur la Côte-Nord, puis sa mère est Québécoise. Elle a par contre été élevée à Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue. Ensuite, elle est déménagée à Montréal où elle a fait un bac en communication et relations publiques à l'UQAM. Comme elle nous a dit tout au long de l'épisode, elle croit énormément au pouvoir de l'art pour transformer les mentalités et toucher les gens. À sa sortie des bancs d'école, elle a donc cofondé une maison de production pour les Premières Nations.
Suite à quoi, elle a pendant 10 ans siégé à l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, qui est une assemblée qui regroupe 53 chefs complètement indépendants et autonomes de différentes nations autochtones. Ils se regroupent afin de créer un front commun de revendications. Cette Assemblée des Premières Nations, elle s'est dotée de structures gouvernementales. Il y a par exemple une commission de la santé, du développement économique, du développement durable. Pour sa part, Mme Joannette, elle s'est impliquée à la commission du développement des ressources humaines des Premières Nations, qui a pour but d'aider la clientèle à intégrer le marché du travail. En 2018, elle devient directrice générale du Wapikoni Mobile. C'est un organisme offrant un studio qui circule dans les communautés autochtones et y propose aux jeunes des Premières Nations des ateliers pour les aider à réaliser des courts-métrages et des œuvres musicales. Depuis sa création, plus de 5000 participants ont été formés ou initiés au cinéma et à l'enregistrement musical. Aujourd'hui, Mme Joannette dirige le programme « Créer, connaître et partager » du Conseil des arts du Canada, qui soutient le talent et le rayonnement autochtone. On vous laisse donc sur cette discussion stimulante avec notre invitée, et bonne écoute!
Madame Joannette, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au podcast Femmes en affaires. On est super contente de vous avoir aujourd'hui.
Kwekwe, bonjour les filles, ça me fait plaisir d'être avec vous.
Donc, avant de parler un peu de votre parcours plus professionnel, on aimerait ça un peu parler de, dans le fond, votre communauté, puis peut-être que vous pourriez un peu nous parler de votre transition vers Montréal.
Absolument. Alors, je suis née à Montréal, mais je suis partie rapidement avec ma mère, qui est québécoise, en territoire Anishinaabe-Algonquin, en Abitibi-Témiscamingue. Alors, c'est avec une belle famille Anishinaabe du Témiscamingue que j'ai grandi, avec une grand-maman algonquine au pied de mon lit, et avec le territoire algonquin, finalement, que j'ai davantage été en contact dans mon enfance. Et puis, je suis arrivée à Montréal jeune ado, un peu perdue en repère identitaire, évidemment, comme plusieurs personnes, finalement, qui ont des parcours similaires à moi. Et puis, j'ai longtemps jonglé avec beaucoup d'inquiétudes par rapport à mon identité, autant autochtone que non-autochtone, parce que étant à la fois autochtone, mais en même temps très métissée physiquement, j'étais aussi une personne d'ailleurs. Hein. Souvent, on me demandait si je venais du Mexique ou de l'Asie. Ou... Donc, autant pour la communauté québécoise que pour la communauté autochtone. Et puis, finalement, ben, je me suis enracinée beaucoup, beaucoup dans ma compréhension. Évidemment, mon enseignement sur le territoire algonquin a été extraordinaire puis est resté enraciné dans moi. Mais aussi, ma mère était très impliquée dans le mouvement des femmes autochtones du Québec. Donc, j'ai grandi dans les coulisses du mouvement des femmes autochtones. C'est avec ces femmes militantes, unies, de différentes nations, de différents parcours, de différentes générations que j'ai grandi et j'ai vu finalement la force de cette unité, la force de cette collaboration, la résistance, la résilience, la résurgence finalement d'un mouvement de défense de nos droits à travers des enjeux au niveau des femmes au début. Puis ensuite, ben, je commençais à m'y intéresser beaucoup plus sérieusement lorsque j'ai un peu retrouvé mon parcours et j'ai choisi de retourner sur les bancs d'école. Et puis j'ai choisi, j'ai décroché au niveau secondaire très, très tôt, mais je suis retournée au niveau cégep au Québec. J'étais beaucoup plus âgée que les autres, ayant décroché pendant plusieurs années. Donc, j'étais très assoiffée d'apprentissage. Et puis, aujourd'hui au Québec, il existe le cégep Kiuna, qui est un magnifique, c'est une institution postsecondaire autochtone. J'aurais rêvé d'avoir un Kiuna quand moi, j'étais jeune. Mais ça n'existait pas à mon époque. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu négocié avec chacun de mes professeurs pour être capable d'intégrer une composante autochtone à l'ensemble de mes cours. Donc, en politique, j'ai étudié la Constitution canadienne qui était dans le cursus obligatoire, mais j'ai aussi demandé de pouvoir travailler très, très sérieusement sur la loi sur les Indiens. J'ai fait la même chose en philosophie où je voulais regarder les pratiques traditionnelles, les cérémonies traditionnelles. J'ai fait la même chose en sociaux. Alors, j'ai un peu adapté mon programme collégial pour être capable de m'enraciner dans ce qui me drivait, ce qui me donnait le goût finalement de pas décrocher puis de continuer cet apprentissage. Puis, je suis sortie de cette expérience très, très enrichi de connaissances et de savoirs. Et puis, ça m'a donc vraiment enraciné là, dans mon identité puis dans mon désir de trouver ma contribution.
Puis peut-être revenir un peu là en arrière, quand vous êtes retourné en fait à Montréal, est-ce que vous avez eu comme des chocs en revenant? C'était quoi les différences entre la vie en Abitibi puis dans un milieu plus urbain? Est-ce que ça a été des gros chocs culturels pour vous?
Je pense que le plus gros choc, c'est peut-être pas un choc. Je pense qu'on, quand on est adolescent, on essaie d'avoir des repères. Puis moi, mon repère, c'était un peu l'exclusion, probablement. J'avais vécu dans beaucoup d'exclusions, j'avais vu beaucoup la division. Alors, c'est sûr que quand je suis arrivée, je me suis liée d'amitié beaucoup, beaucoup avec des communautés d'immigration. Beaucoup de mes amis étaient issus de l'immigration, des gens qui connaissaient la discrimination, le racisme, des gens qui étaient noirs ou qui étaient hispano, qui étaient du monde arabe. Ou c'était souvent un peu les gens autour de moi avec lesquels je me sentais confortable. J'avais l'impression qu'on avait des expériences similaires là, d'exclusion, puis de vouloir combattre les injustices ou les dénoncer. Ou il y avait quelque chose, on est ado, on cherche à se connecter finalement avec... Mais je me suis retrouvée aussi dans les difficultés, finalement, de la vie urbaine, tout ce qui est plus vie criminelle et vie des souffrances sociales. Et puis, tout ce qui vient avec l'exclusion, finalement, tous ces parcours de guérison qui prennent du temps puis qui passent souvent par une auto... On s'inflige des douleurs parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est un peu ça que j'ai vécu. J'ai revécu toutes sortes de difficultés puis d'angoisses. À travers le parcours, j'ai aussi su me reconnecter par l'éducation. Je pense vraiment que l'éducation a été une source de survie pour moi. Ça m'a permis de comprendre que j'étais pas seule à vivre ce que je vivais, que c'était des lourdeurs historiques qui nous avaient amenés là, que c'était l'histoire coloniale de ce territoire qui nous avait amenés à s'oublier et à manquer de fierté. Finalement, quand on comprend pourquoi on vit certaines choses, ça nous permet de commencer un processus de guérison. Je pense que c'est à travers cette compréhension-là que j'ai commencé ce processus de guérison pour pouvoir finalement être fière de mon identité, puis mon identité un peu plurielle, un peu chaotique, un peu non asymétrique. C'était un territoire, une forêt, des lacs et des animaux qui sont du territoire algonquin, mais en même temps, une famille qui est vraiment du Nitassinan sur la côte nord, français, anglais, parce que j'ai grandi en anglais, en Témiscamingue, communauté française. Ma mère est francophone, s'est battue pour la langue française beaucoup. Alors, j'ai étudié en français toute ma vie. Alors, ça m'a amenée à avoir comme un genre de parcours pluriel, mais qui aujourd'hui compose un peu ma fierté identitaire. Fait que c'est pas tant le clash culturel de partir d'une petite ville à une grosse ville ou un petit village à une grosse ville, mais c'était davantage de un peu trouver sa place puis s'éloigner finalement du chaos de cet espace de douleur pour essayer de trouver finalement la beauté dans la guérison puis la contribution en bout de ligne. Mais c'est difficile de se connecter à cet engagement-là ou à sa contribution lorsqu'on est encore un peu dans un processus de quête individuelle ou de guérison individuelle. Alors, c'est vraiment le chemin qui a été un petit peu plus difficile pour moi, c'est de l'atteindre, cette guérison-là, pour pouvoir m'imaginer dans un avenir où je pouvais contribuer. Je pense qu'on a longtemps été dans un espace où, comme autochtones, on a été victime d'un génocide extraordinaire. Donc, on souffre de tous les traumas associés à ces expériences-là. Donc, on était dans un espace de souffrance et une recherche de guérison, alors que les populations non autochtones, eux autres, étaient peut-être dans un déni. À cause de l'histoire réelle n'ayant jamais été racontée. On est un peu dans le déni. Là, quand on commence à s'éveiller à l'apprentissage, parce que c'est pas faute de rapport ou de recherche ou d'enquête pour nous dire, je pense que j'ai souvent rencontré un genre d'inertie autour de la culpabilité ou autour de « là, je sais pas trop quoi faire, comment faire », puis de l'autre côté, on est comme... Fait que j'ai souvent pensé qu'on était un petit peu dans un espace d'inertie, puis je pense que là, on le traverse tranquillement. Et puis je suis de celles qui pensent qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on fête ensemble ces petits pas-là. Je dis souvent qu'on rêve d'un avenir pour les générations, les 7 générations à venir, on dit souvent ça. Puis c'est important, par contre, qu'on les inspire à continuer à faire ce travail-là. Donc, ils doivent nous voir heureux, ils doivent nous voir célébrer les réussites et non pas juste... avoir l'amertume de la lenteur ou de la difficulté ou des barrières ou des plafonds de béton, des plafonds de verre, des plafonds de peu importe. Puis moi, je suis de celles qui pensent qu'il faut qu'on se donne la permission de s'arrêter puis de festoyer ensemble sur les petites réussites, même s'ils sont petites.
C'est une belle philosophie, je trouve. En plus, en ce moment, ce que vous racontez, justement, cette frustration aussi par rapport à la culpabilité, on en a beaucoup entendu parler avec tout ce qui est ressorti avec les inégalités, le racisme, avec les BIPOC et tout ce qui s'est passé durant le second confinement. Donc, quand vous parlez de ces ponts-là, je trouve que c'est tellement important de rappeler aux auditeurs que ces connaissances-là, elles y sont et que justement, au lieu de se rester dans cette culpabilité-là, on devrait aller chercher ces connaissances et essayer de s'éduquer parce que, comme vous racontez, vous avez réussi à construire votre parcours entier en allant chercher des ajustements, je dirais. Puis toutes ces connaissances, elles y sont. Et vous n'étiez même pas dans un cégep qui était autochtone. Donc, c'est-à-dire que ces connaissances, elles y sont pour tout le monde et qu'elles sont accessibles et qu'on a juste à aller les chercher, en fait. Donc, je trouve que c'est un beau message.
Effectivement, faut juste reconnaître que c'est mal enseigné ou qu'on connaît pas. Et puis, dès qu'on commence à faire un petit peu de recherche pour mieux comprendre, tout est à notre disposition pour le faire. Puis moi, je crois beaucoup, beaucoup à la pratique artistique aussi, parce que je pense que c'est une façon extraordinaire de s'approprier des nouveaux messages, des nouvelles perspectives sur le monde, des nouvelles valeurs, sans nécessairement qu'on soit dans un processus intellectuel. On est vraiment davantage dans un processus émotif, spirituel même parfois. Alors, je trouve que ça l'enracine davantage, ces apprentissages-là, dans son propre développement, pour un peu aligner ses façons de faire puis ses propres valeurs, puis aussi influencer ses différents milieux. Moi, je pense que c'est beaucoup une décolonisation des privilèges, une redistribution des privilèges, puis une reconnaissance des privilèges de chacun pour qu'on puisse occuper nos espaces de privilèges du mieux qu'on peut pour défendre les valeurs qui nous tiennent à cœur. Puis à tous les niveaux, il y a des possibilités de créer du changement. Ça peut être dans notre noyau familial, ça peut être dans notre environnement professionnel, ça peut être dans nos engagements citoyens, ça peut être dans notre participation citoyenne sur des tribunes, etc. Puis ça, je trouve que c'est important qu'on sache que c'est possible d'aller chercher la vérité. Tu sais, au Canada, ici, on parle de la vérité et la réconciliation. C'est vraiment des propositions qui sont intéressantes et qu'ils devaient exister dans le temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est moins dans cette réconciliation parce que c'est une proposition qui est très coloniale. La proposition autochtone, pour moi, elle est davantage cette co-création, cette relation de nation à nation. C'est ça, la proposition autochtone. Mais la vérité, on le sait que c'est à la source. C'est la source de la capacité tirante. Mais il faut aussi intégrer la notion de mémoire. Il faut avoir une mémoire collective, puis il faut reconnaître qu'on a éliminé cette mémoire collective-là, qu'il y a eu des tentatives d'invisibiliser certaines réalités. Puis je pense que la société, puis les ministères de l'Éducation, puis tout le monde essaye tout le monde commence à avoir un éveil sur, effectivement, là, il nous manque un pan de l'histoire, puis c'est ce qui a probablement créé nos divisions, au lieu de créer une fierté commune, parce que c'est une belle histoire, l'histoire de la rencontre au début. Je pense toujours à la signification de Québec, qui veut dire Québec, qui veut dire descend. Descends de ton bateau. C'est accueillant, là! Oui. Ça veut pas dire « Hey, t'es qui, toi? » Ça veut dire « Descends de ton bateau! » Descends de ton... Alors, moi, je trouve que c'est extraordinaire de se remémorer ça. Finalement, il y avait un accueil, il y a toujours eu un accueil, puis là, ben c'est le temps de co-construire ensemble l'avenir pour nos enfants, nos petits-enfants, puis les générations à venir.
Mais ça me fait penser, quand vous parlez un peu, on dirait la mission, justement, du programme du Conseil des arts, dans le sens que, là, les Autochtones, ils peuvent... dans le fond, créer. Donc, juste, ça les aide un peu à passer leur trauma d'une certaine façon. Mais nous, ça nous aide aussi à s'apprivoiser un peu la culture qu'on connaissait pas, dans le fond, depuis des années. Fait que je trouve que c'est une belle coalition, justement, la co-création. Moi, je vois ça dans cet œil-là, un peu.
Aussi, absolument. Puis moi, je le vois beaucoup comme l'art au service des transformations, autant individuel, parce qu'effectivement, la création, pour un parcours un peu difficile, ça peut être extrêmement un parcours de guérison. Hein. Je dis souvent, le parcours est aussi important que la destination, parce que le parcours créatif construit une identité, construit une communauté, parce que parfois, on est inspiré d'une histoire d'une communauté, puis les artistes autochtones connaissent la responsabilité et la réciprocité qui est nécessaire entre l'artiste et la communauté. Mais à la fois, ça permet effectivement aux auditoires et au public de différents horizons de pouvoir s'approprier un récit qui a trop longtemps été exclu du paysage culturel, puis même par des processus de législation officielle d'exclusion de ces langages artistiques et culturels. Donc, je pense qu'il y a vraiment un magnifique pont à faire entre les retombées que la pratique artistique peut faire entre les nations aussi, pour parce que même nous, entre les nations, moi, je le vois quand, avec le Wapgoni Mobile, on amène des délégations d'artistes pan-canadiens au Forum permanent des Nations unies sur les droits des peuples autochtones à chaque année, puis on voit là, à quel point ça donne des capacités, empowerment, ça développe notre fierté de comprendre qu'il y a une pluralité d'Autochtones, qu'il y a une pluralité d'expressions, qu'il y a une pluralité de réalités, parce qu'on parle beaucoup d'inclusion et de diversité, mais je pense que c'est important aussi de reconnaître qu'il y a une énorme diversité autochtone. Juste au Canada, on est plus de 600 communautés dans tout le Canada, on parle de 70 langues différentes. Juste au Québec, 10 nations. C'est incroyable, cette diversité vraiment extraordinaire où on mérite d'en apprendre davantage sur cette belle diversité-là, parce que c'est vraiment plein de magnifiques parcours. Je pense que effectivement, un beau pont. Créer, connaître et partager, c'est un programme extraordinaire, entièrement développé par des professionnels autochtones, entièrement dirigé par des autochtones. Je trouve ça absolument extraordinaire. C'est aussi très, très reconnaissant aussi de l'interdisciplinarité, de la pratique. Puis ça ouvre aussi à une variété de profils, autant des organisations officielles que des groupes ou des collectifs d'artistes, mais aussi des artistes individuels qui soient émergents ou établis. Mais aussi, et ça je trouve ça extraordinaire, des porteurs de savoir traditionnels. Nos aînés qui veulent créer pour assurer la pérennité des savoirs sont admissibles au programme du Conseil des arts comme une pratique culturelle. Donc je trouve ça extraordinaire qu'au Conseil des arts, on soit capable de décoloniser la perspective de l'art pour favoriser l'intégration de toutes les formes de pratiques culturelles que les gens de partout veulent documenter ou réaliser d'une façon distincte et différente. Ça, je trouve ça vraiment le fun. C'est sûr qu'il faut continuer à décoloniser les espaces de diffusion, parce que je pense qu'il faut que... Mais on le sent qu'il y a du changement. Pour moi, c'est positif. Mais il y a eu longtemps des barrières à l'accès au talent dans certaines institutions culturelles. Mais c'est probablement parce que je dis souvent qu'il faut décoloniser l'excellence. La notion d'excellence, c'est une notion qui vient un peu avec un parcours, hein? Tu as étudié dans des grandes écoles d'art. Après, tu as eu l'occasion d'être diffusé dans des grands établissements. Tu as vendu des billets à X, Y. C'est un peu comme ça qu'on définit l'excellence artistique. Alors que si on veut être inclusif des parcours autochtones, il faut déconstruire toute cette façon de voir l'excellence pour être capable d'aller trouver les bijoux de créateurs et de créatrices qui existent et qui sont là, mais qui n'ont pas eu les privilèges à l'éducation. Ils n'ont pas eu accès à ces espaces pour diffuser leurs pratiques, etc. Mais ils l'ont fait à l'intérieur de leur communauté, intercommunauté, et puis il existe des bijoux d'artistes qui doivent pouvoir être vus et reconnus, même s'ils viennent de ces parcours un peu différents de ce qu'on a l'habitude lorsqu'on reconnaît un artiste établi. Puis c'est ça que le programme permet.
En plus, j'ai l'impression que du point de vue artistique plus global, il y a vraiment de plus en plus de présence sur les réseaux sociaux aussi. Alors qu'avant, on n'avait pas tout ça. Mais aussi, comme vous avez parlé un peu du concept de fierté qui avait été enlevé à travers tous les pensionnats et tout ce qui s'est passé, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'à travers ces mouvements-là, cette fierté, elle revient et elle est transmise sur des grandes plateformes avec les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de personnalités qui sont connues puis qui partagent ça, et c'est hyper intéressant parce que du coup ils ont des nouvelles plateformes de diffusion qui sont vraiment plus accessibles à tout le monde, qui sont moins encadrées par rapport justement à ces barrières-là qu'ils auraient peut-être eues dans des médias plus traditionnels, alors que là on voit vraiment, il y a beaucoup de choses. Moi je sais que j'ai vu passer des danseurs, des chanteuses qui ont des impacts sur les communautés larges, et on voit que c'est les personnes qui créent des communautés mixtes où tout le monde a sa place, puis je trouve que c'est vraiment enrichissant.
Absolument. J'ai parlé avec un aîné juste il y a quelques minutes avant de vous rejoindre, puis on échangeait justement sur la résurgence identitaire de la jeunesse et du leadership de demain, et à quel point il y avait une fierté qui était vraiment beaucoup plus enracinée, puis que c'était en partie leur lutte, la lutte de nos grands-parents, de nos cocoums, qui ont fait en sorte qu'on puisse aujourd'hui se retrouver dans un espace où on n'a plus peur d'être autochtone. On n'a plus peur de dire que nous sommes autochtones. Et puis, ils ont comme défriché le chemin pour permettre à notre jeunesse aujourd'hui de pouvoir s'affirmer fièrement, s'assumer dans ce mouvement de résurgence identitaire extraordinaire. Puis, je pense que c'est vraiment... Parce que évidemment, les impacts plus directs de la colonisation, des pensionnats, des lois nous empêchant de parler notre langue, pratiquer nos cérémonies, etc., sont beaucoup plus collés sur nos parents et nos grands-parents, alors qu'eux, ils se sont battus pour qu'aujourd'hui, on puisse finalement commencer à se retrouver et à vivre cette résurgence. Puis effectivement, elle est palpable sur les médias sociaux, elle est palpable dans les programmations artistiques un peu partout. On commence à sentir que... Puis on s'éloigne aussi du folklorique, hein, parce qu'il y a eu... Tu sais, il y a eu des étapes, je pense, puis c'est normal, hein, ça fait partie du chemin, je crois. Il y a eu des étapes où finalement, c'était presque exclusivement des non-autochtones qui racontaient nos histoires, mais il y avait un consultant autochtone qui avait été engagé. Après ça, on commençait à intégrer du personnel autochtone dans les équipes. Donc, on embauchait les gens pour venir faire partie d'une équipe, pour créer quelque chose. Et puis là, je pense qu'on est vraiment dans la co-création. Là, ce n'est plus juste... vraiment, on veut intégrer le savoir, on reconnaît les compétences. Et puis donc, on est vraiment dans un bel espace là, de partage et de création.
Mais c'est drôle parce que quand vous dites intégrer le savoir, Lia puis moi, on brainstormait avant l'épisode, puis on se disait qu'il y a tellement de... un peu des rites ou des pratiques des Autochtones qui pourraient tellement être bénéfiques dans le monde des affaires puis dans les organisations non autochtones, justement. On avait vu le graphique de l'organisation Femmes Autochtones. C'était un cercle avec... il y avait plusieurs représentants, mais il n'y avait pas de hiérarchie, puis c'est ça, une forme circulaire, puis on se disait, ce serait... bon d'instaurer ça aussi. Puis vous parlez souvent des aînés, l'intergénérationnalité aussi dans les organisations. Des fois, c'est plus difficile. Il y a comme deux clans, j'ai l'impression, les jeunes, les plus vieux. Fait qu'on se disait, tu sais, il y a tellement de pratiques qui pourraient être bénéfiques dans le monde des affaires. Je sais pas si Ben, vous devez être d'accord avec ça.
Absolument, moi. Puis je suis toujours un petit peu... j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je lis quelque chose pour dire, genre, une pratique innovante, extraordinaire. On a 20 ans de recherche. Puis on sait que le mentorat, maintenant, a des impacts significatifs sur l'intégration. Ça, tu sais, on peut citer des années de recherche, etc. Alors que le mentorat, c'est la pratique d'apprentissage autochtone depuis tous les temps. On nous a tout le temps dit, nos aînés nous disaient... regarde, répète et redonne. Et donc, ça a toujours été le mentorat, la façon de transmettre des apprentissages, transmettre des savoirs, etc. Puis là, on le voit que dans le monde des affaires, tout le monde trouve que c'est vraiment la nouveauté extraordinaire. Et puis,
c'est tellement vrai.
Il faut intégrer le mentorat dans nos activités. Puis il y en a plein de pratiques comme ça qu'ils deviennent innovantes lorsque des non-autochtones se les approprient. Mais par contre, elles sont traditionnelles lorsqu'on les regarde du point de vue autochtone. Alors, c'est vraiment ça aussi, c'est des petits nœuds qu'il va falloir continuer à dénoyauter pour reconnaître finalement la part des façons de faire autochtones dans le développement du milieu des affaires. Pour moi, c'est absolument évident. Oui, la décentralisation des pouvoirs, le partage des pouvoirs, la recherche de consensus, c'est les modes plus circulaires ou encore, moi, je me souviens... on regardait les formes pyramidales là, d'autorité, puis on se disait, bien, finalement, dans la culture autochtone, c'est la pyramide inversée. C'est comme le canot. Hein? La coque du canot, c'est là qui doit soutenir la totalité de la communauté. Alors oui, il y a des gens qui portent un plus gros fardeau de soutien, mais on s'entraide tout le monde ensemble pour créer cet équilibre pour que le plus grand nombre de personnes puissent intégrer le canot finalement, qui est solide. Puis la même chose aussi avec les milieux organiques. On parle beaucoup de l'interdisciplinarité ou l'intersectorialité. Il faut travailler de façon holistique et transversale. Mais pourtant, la nature nous a toujours enseigné ça. T'sais, la forêt, les plantes, la cohabitation entre le monde animal, végétal, les eaux, comment tout le monde s'entraide, ça a toujours été le modèle qu'on regardait pour se construire des modèles de gouvernance, pour se construire des modèles de société qui étaient pérennes et durables et responsable par rapport à la Terre et la Mère Terre. Donc, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs façons de faire qui, finalement, sont inspirées de choses qui ont toujours été faites il y a de ça des milliers d'années.
Ouais. C'est drôle parce que ça fait pas si longtemps que j'habite au Québec et je me souviens qu'en arrivant, on disait beaucoup, ça c'est une vision complètement colonialiste européenne, on disait, je me souviens avoir déjà entendu dans des milieux plus justement européens, des gens qui disaient « Oh mais au Québec, au Canada, la culture est plus récente, ils ont moins de culture », mais en fait c'est juste... complètement oublié tout ce qui est... C'est comme si on repartait à zéro. On en parlait justement avec Sandrine, qu'on enseigne encore à l'école Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais comment on peut découvrir un continent qui existait avant avec des personnes? Ça n'a aucun sens. Puis on a encore un peu ce regard-là alors que toute cette culture, elle existe. Puis il faut juste commencer à la reconnaître, en fait. Comme vous dites, toutes ces pratiques, elles existent déjà. C'est comme si on refait, en fait, Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. On redécouvre des pratiques qui existe depuis toujours, alors qu'avec de la co-construction, du co-développement, ce serait tellement enrichissant d'un point de vue plus... nous, on met nos lunettes d'affaires, mais on retourne en fait aux racines initiales au lieu d'essayer de les réinventer.
Exact. Ouais. Absolument, tellement. Il faut se réapproprier la vraie histoire. Pour pouvoir être aujourd'hui dans ce dialogue de « il faut se réapproprier la vraie histoire », c'est qu'on a dû... déconstruire, reconnaître les injustices, reconnaître. Puis ça, c'est un parcours. Ça prend du temps, puis il faut être patient. Mais effectivement, on est là. C'est pour ça que je dis, je suis confiante, on est sur un bon chemin. Je pense que les reconnaissances sont faites. Puis là, ben il reste à donner la parole aux porteurs de savoir pour qu'ils puissent contribuer au débat de société, contribuer à enrichir les visions d'affaires, les visions de développement de notre société. Parce que finalement, on retrouve chez ces histoires anciennes exactement ce qu'on souhaite pour demain.
Comment vous avez fait pour un peu choisir un combat, dire, tu sais, au début, vous avez commencé avec les femmes autochtones, mais est-ce que ça a été comme déchirant un peu de choisir une lutte dans tous les enjeux qu'il y avait?
La décision de choisir le droit ou les coms a été déchirant, effectivement, parce qu'il y a tellement à faire au niveau juridique, là. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire, puis je salue tout le monde que je connais de près qui travaille de ce côté-là. Mais je pense qu'aussi, il faut reconnaître qu'on a besoin d'être un peu partout pour faire changer les choses, il faut les faire changer à différents niveaux. Je pense que j'ai longtemps été, surtout dans mon parcours à Femmes autochtones du Québec, j'étais beaucoup associée à l'éducation populaire. Déconstruire les mythes et réalités, travailler un petit peu dans essayer de déconstruire. C'est super enrichissant parce qu'on voit qu'on provoque des changements puis des « Ah oui, c'est vrai, hein, je savais pas », tu sais, ça c'est toujours le fun. Sauf que ça vient aussi avec un poids, une fatigue du militant. Parce que tu te fais continuellement poser les mêmes questions un peu racistes, les mêmes petites bien inconscients qui sont soulevés dans l'échange, puis qui te rappellent la lourdeur du système avec lequel tu dois composer. Et puis donc, ça devient un petit peu lourd sur tes épaules. Puis ça, on l'a souvent dit, je l'ai souvent entendu dans des tribunes autochtones, tu sais, la réconciliation, c'est pas juste une affaire d'autochtones, tu sais, c'est au contraire, tu sais, moi, je considère que la...
Ça doit être dans les deux sens.
Exact, tu sais. On est là pour aider, tu sais, parce qu'on connaît les récits, les histoires à partager, mais on ne devrait pas être les porteurs de cette rencontre. Elle doit être initiée par la personne qui souhaite découvrir davantage sur nous. Mais c'est sûr qu'après ça, ben, je pense que j'ai comme toujours aimé... j'ai toujours eu l'art au service, mais j'avais cette volonté d'autonomie des nations. Alors, tu sais, pour moi, mon passage en politique, redevable à la table des chefs, comprendre un peu la structure, cette table... unis des Premières Nations du Québec, je trouvais que c'était un engagement extraordinaire pour moi de travailler au développement des capacités de chacune des communautés du mieux que je pouvais en leur offrant des outils, des services, des guides, etc. Fait que ça a été vraiment, vraiment le fun. Mais je pense que j'ai toujours eu un petit peu près de moi l'expression artistique. Je ne suis pas une artiste. Même quand j'avais ma compagnie de cinéma, j'engageais des réalisatrices. Et puis, j'ai toujours été plus à la production, à l'organisation, à la gestion, finalement, des différents projets. Puis des différentes équipes, mais parce que pour moi, c'est une façon de s'exprimer, puis c'est une façon de partager qui est plus porteur et prometteur pour enraciner vraiment dans des savoirs. Fait que c'est pour ça que j'étais vraiment contente de revenir vers Wabigoni Mobile, puis aussi revenir vers la jeunesse. La jeunesse, pour moi, c'est vraiment le leadership de demain. Il faut inspirer la jeunesse à croire en sa contribution, en sa participation citoyenne, en son engagement quelconque. Puis pour moi, Wabigoni, c'était vraiment ça. C'était cette organisation qui avait éliminé toutes les barrières à la participation pour assurer le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès finalement à cette étincelle de désir, de qu'est-ce que j'ai goût de dire, comment j'ai goût de le dire, puis de découverte de soi, puis de rencontre avec les publics. C'est vraiment une porte d'entrée extraordinaire que je trouvais tellement importante parce que la courbe démographique de nos populations, je veux dire, on a une majorité de jeunes dans nos... Fait qu'il fallait... Pour moi, c'était important de m'associer à un projet comme ça, artistique et culturel, mais qui était davantage approprié par la jeunesse de nos communautés puis de nos nations, mais j'étais contente de voir aussi qu'il y avait le pont avec les aînés puis les générations qui se servaient finalement du pouvoir de la caméra pour des stratégies de préservation, nos traditions de préservation, nos savoirs aussi, différentes façons de le voir. Fait que ça, pour moi, c'était magique, mais je le sais que c'est l'art au service des transformations va toujours être un peu le cœur de... C'est facile pour moi de défendre ça, puis je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu la guérison d'artistes à travers des processus créatifs. J'ai vu l'ouverture de certains publics et de certains auditoires grâce à la réception de certaines pratiques artistiques. J'ai grandi aussi pendant la crise d'Oka, avec une énorme division. Moi, j'étais adolescente, j'avais avoir 14-15 ans. Puis, je voyais la division, le racisme dans la communauté, mais en même temps, je voyais dans tous les foyers québécois, les gens jouaient du cachetine, de la musique innue. Donc, les gens adoraient cachetine, c'était de la musique, c'était le fun, c'était les chants de Noël en innue. Puis, tout le monde trouvait ça très beau. Alors que dans la société, au niveau politique, médiatique, journalistique, c'était la division, le chaos total. Donc, pour moi, ça a été très révélateur de dire « Wow! » Des fois, des artistes peuvent créer des ponts dans certaines situations que toute initiative politique, académique serait incapable de faire parce que, dans le fond, c'est comme je disais plus tôt, c'est moins dans l'intellectuel puis plus dans l'émotif que, finalement, on crée cette rencontre puis cette connexion qui, à tout jamais, va nourrir nos relations.
Ouais, c'est super intéressant. Ça me fait penser, bah, en ce moment, pour les plus jeunes, Elisa Pi, qui est une chanteuse autochtone, elle est vraiment, justement, elle crée ces ponts-là aussi. Donc, je pense que justement, la musique fait partie puis se renouvelle encore en ce
Puis ce que
moment.
je trouve magique avec les jeunes aussi, c'est qu'ils contemporalisent les pratiques, le chant de gorge mélangé avec du folk ou avec de l'électro. Donc les jeunes, ils sont capables de s'approprier des pratiques traditionnelles et de les amener dans un monde contemporain, nouveau, explosé. Ils sont innovants, ils sont créateurs. C'est super beau parce que ça fait vraiment une belle rencontre, puis en même temps un beau respect du bagage qu'ils sont en train de se réapproprier dans la résurgence identitaire, mais en l'amenant un peu dans cette vision du futur, puis en voulant faire partie de ces pratiques du futur. En tout cas, je suis inspirée par la jeunesse. Je trouve qu'ils sont innovants, inspirants, ils sont dans la collaboration, ils sont dans le monde, ils sont dans la rencontre, ils veulent voir les autres, découvrir les autres, ils veulent partager. Alors, je trouve que c'est inspirant pour l'avenir.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Pour conclure, peut-être, est-ce que vous auriez un conseil peut-être à donner à des personnes qui voudraient se lancer en affaires, qui veulent être des alliés, justement, pour intégrer peut-être toutes ces pratiques et vraiment être plus à l'écoute et pouvoir faire une différence? Est-ce que vous auriez des conseils à donner peut-être?
Ben, c'est sûr que pour n'importe quelle personne autochtone qui souhaite se lancer en affaires, c'est de savoir qu'il existe des réseaux autochtones qui peuvent comprendre les défis qui sont propres finalement à ce parcours-là, puis à ce sentiment-là, puis de se les. C'est des beaux espaces de partage, c'est des cercles de partage, c'est des cercles où on a l'occasion de s'entraider et puis donc de les utiliser, ces beaux espaces qui sont mis à la disposition là, pour les entrepreneurs autochtones. Puis pour les entrepreneurs non autochtones, tu sais, qui sont sensibles aux enjeux d'exclusion puis qui veulent créer finalement des entreprises plus inclusives puis des projets qui vont faire rayonner finalement ces invisibilités ou déconstruire l'histoire pour qu'on s'approprie davantage une fierté identitaire commune. Ce que je dis souvent pour la notion d'être allié, je pense que c'est difficile. Je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut s'intéresser, il faut participer, il faut s'inviter, il faut participer aux manifestations culturelles et artistiques autochtones, il faut s'imprégner un petit peu ces réseaux-là, il faut prendre le temps de développer les amitiés organisationnelles ou professionnelles ou les amitiés individuelles. Je pense que on ne peut pas vraiment s'auto-identifier comme allié. Je pense que si vous êtes réellement un allié, vous allez vous le faire dire par une nation, une communauté, une organisation autochtone. Vous allez être identifié comme allié par les gens avec qui vous avez développé des relations. Pour moi, le partenariat, c'est vraiment des amitiés organisationnelles. Et ça nécessite de la réciprocité, du respect. Et, tu sais, on le dit souvent, un bon partenariat, c'est un win-win situation. Mais il y a quand même des notions un peu hiérarchiques il y a toujours quelqu'un qui veut être un peu plus que l'autre, tu sais. Puis de valoriser l'égalité dans un partenariat, puis la réciprocité, puis des retombées réciproques pour les deux côtés, c'est extraordinaire. Enfin, je pense que l'idée, c'est de s'intéresser, s'ouvrir, participer, inviter, puis contribuer et co-créer, collaborer. S'il y a un intérêt de faire quelque chose sur une réalité autochtone ou dans un territoire autochtone ou peu importe, d'inviter finalement des porteurs de savoir, des organisations à venir s'asseoir autour de votre table, à composer vos comités aviseurs, à composer vos structures de gouvernance, vos conseils d'administration, puis à comprendre comment laisser la place à ces voix qui s'expriment différemment, de pouvoir contribuer pleinement dans ces espaces de gouvernance et de réflexion stratégique. Parce que je pense que c'est comme ça que finalement on va collaborer réellement ensemble, puis on va construire des entreprises, une société, des valeurs, des principes, des politiques qui nous représentent davantage.
Ben merci beaucoup. Oui, c'était
Merci
vraiment
beaucoup.
intéressant. C'est un très beau message à transmettre, je pense. Surtout en ce moment, on en a besoin avec tout ce qui s'est passé pour tout le
Ah oui.
monde.
Mais ça m'a fait plaisir de jaser avec vous.
Merci d'avoir écouté ce 16e épisode du podcast Femmes en affaires, produit par Ala 3 Média. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'histoire des Autochtones, on vous invite à consulter les liens dans la description de cet épisode-là ou d'aller consulter notre page Instagram @podcastfra. On se revoit donc le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!